Quel beau cantique que nous venons de chanter. Bonsoir à chacun. Nous voulons véritablement comprendre la volonté de Dieu. Je pense qu'une des raisons pour laquelle plusieurs sont parmi nous est ainsi faite, comprendre la volonté de Dieu afin de la vivre. Non pas de la faire pour la faire, mais de la vivre. Je voudrais partir d'un verset de Paul aux Corinthiens qui va écrire ceci dans une de ses lettres. Alors que je ne me trompe pas, c'est quand il dit « L'amour de Christ nous presse ». Alors, je ne veux pas me tromper, c'est un 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 14, il parle aux Corinthiens, il a un souci, c'est que les croyants de Corinthe, eh bien, soient dans la communion avec Dieu, soient réconciliés avec Dieu. D'ailleurs, le verset qui est contre le mur de l'assemblée est tiré de ce chapitre 5 de la deuxième épître de Paul. Et il exprime quelque chose qui est là dans son cœur, qui va nous permettre ce soir de comprendre que Dieu veut la même chose. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 14. « Car l'amour de Christ nous presse. » Amen. Quelle grâce de pouvoir avoir dans son cœur cette pression. C'est une bonne pression ça. S'il y a la dépression, il y a la bonne pression, c'est-à-dire que notre cœur se dilate, notre cœur est pressé, c'est plus fort que nous. Il y a des gens pour qui on entend des fois dans les procès, des gens qui ont dit c'était plus fort qu'eux, on a été poussé à faire le mal. Mais dans la parole de Dieu, on voit l'inverse, on voit des hommes qui étaient pressés à faire le bien. Qu'il en soit ainsi parmi nous, que notre cœur soit pressé par l'amour de Dieu, pour faire le bien que Dieu voudrait que nous fassions. Nous allons lire un texte des plus connus de la Bible, dans Matthieu chapitre 6, le Seigneur enseigne quelques vérités. Je vous encourage à noter les textes que vous allez lire avec moi ce soir, si vous avez l'intention d'être en bénédiction. Matthieu chapitre 6, le Seigneur indique qu'on ne peut pas avoir deux maîtres à la fois. Il indique ça aux chrétiens, on ne peut pas servir Dieu et le diable en même temps, ça ne peut pas aller. Donc, il donne des indications pour être délivré. Et il nous demande de ne pas nous inquiéter. Vous connaissez ce fameux texte, Matthieu 6, verset 25 à verset 34. C'est une instruction que Dieu nous demande d'appliquer. On le voit au verset 25, Matthieu 6, 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? C'est une question que Dieu pose. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que quand Dieu pose des questions, c'est pour que nous y réfléchissions et pour que nous puissions quand même dire « Ah mais c'est vrai, ça tient debout ce que Jésus a dit, la vie est beaucoup plus que la nourriture et le corps est beaucoup plus que le vêtement. » Donc au verset 31, il explique davantage et au verset 31, il dit, il répète « Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus ?» Ce sont des choses essentielles, fondamentales à la vie. Mais il ajoute au verset 32, « Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste, je répète, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez, premièrement, le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Et il recommence, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. » Et il ajoute quelque chose qui nous permet de relativiser quand même. À chaque jour suffit sa peine. Même s'il y a la paix, même si on sait que Dieu pourvoira, il arrive que la vie, les journées sont faites de moments où nous pouvons dire, tiens, ça nous fait de la peine. Vous êtes d'accord avec moi? Nous entendons une certaine information, ça nous fait de la peine. Nous savons que nous ne devons pas nous charger, que nous devons au contraire nous décharger, mais quand même, à chaque jour, il peut y avoir certaines peines. Mais la Bible dit, déchargez-vous sur lui de tout vos fardeaux. Ce verset 33, nous le chantons très souvent, très régulièrement. Nous chantons ce cantique, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses dont nous avons besoin nous seront données. C'est une promesse, Dieu ne peut pas manquer à cette promesse. Il pourvoira, j'espère que ça vous rassure de savoir que Dieu pourvoira tout le temps. Il pourvoira, il est votre Père, il sait de quoi vous avez besoin. Mais il indique, pour que cette grâce repose continuellement sur nous, il indique un commandement, une instruction. Rappelez-vous ce qu'il avait dit plus haut, plus loin, il va le dire. « Recevez mes instructions et vous trouverez le repos. » Donc il indique, ce verset, chercher premièrement le royaume. Le verbe de ce verset indique qu'il y a un effort à faire. C'est peut-être une des raisons pour laquelle nous sommes ici ce soir. Nous avons quand même envie de mieux comprendre, de mieux connaître, de découvrir, de réapprendre, de redécouvrir, etc. Certaines choses, parce que nous avons besoin de les réentendre. Chercher premièrement. Premièrement, ça veut dire que c'est la chose qui doit être faite en premier. En premier, ça ne veut pas dire que parce que le matin, de 6h à 7h, je fais mon culte, Dieu est en premier. Il y a des chrétiens qui s'imaginent que parce que la première heure ou la première demi-heure de la journée, il la donne à Dieu, Dieu est en premier. Non, Dieu est en premier quand, tout le long de la journée, il est en premier dans notre cœur, quelles que soient les occupations que nous pouvons avoir. Parce qu'il y a des croyants qui s'imaginent que, parce qu'ils ont donné la première partie de la journée, qu'elle soit longue ou courte à Dieu, Dieu est en premier. Ce n'est pas ça du tout, on va le voir ce soir. Chercher le royaume de Dieu et sa justice. D'autant plus, nous l'avons vu samedi avec les jeunes, qui est un verset dans l'Ésaïe 64, où Dieu dit, « Tu vas au devant de celui qui pratique avec joie la justice. » Vous ne trouvez pas qu'il est beau ce verset ? Dieu dit, c'est Dieu qui dit, « Tu vas, tu marches devant un homme, une femme, qui pratique avec joie la justice. » Alors je voudrais prendre d'abord deux ou trois textes pour nous montrer qu'on peut faire certaines choses sans pratiquer la justice. Le premier texte, c'est dans l'évangile de Luc, où Dieu donne une parabole pour indiquer cela. C'est très très important pour que nous ne devenions pas des religieux. Luc 18. Vous savez, le Seigneur Jésus, il a enseigné, il sait ce qu'on a besoin. Il sait qu'on a besoin de manger, il sait qu'on a besoin de vêtements, il sait qu'on a besoin de logement, mais il sait aussi ce qu'on a besoin pour notre âme. Croyez-moi, dans Luc 18, il va partir de deux personnes qui se trouvent dans un temple et qui ont toutes les deux une attitude spirituelle. D'accord ? Vous connaissez cette parabole ? Pourquoi il donne cette parabole ? Il la donne, c'est écrit. Luc 18, verset 9. Regardez bien ce qui est écrit. Il dit encore cette parabole. Alors je répète, la parabole, c'est une image terrestre pour expliquer une vérité spirituelle. On a besoin pour comprendre, on a besoin d'images. Il dit encore cette parabole en vue, relisez bien avec moi, de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. Est-ce que c'est bien ça ? Est-ce que c'est bien deux hommes qui montent au temple pour prier ? Répondez-moi, bien sûr. Ma maison sera une maison de prière, Dieu veut que les hommes prient, donc on est sur une très bonne voie. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Ô Dieu ! Alors, en lui-même, hein ? En vérité, ça ne s'entendait pas. Mais Dieu, il entend nos prières, vous le savez ? Est-ce que vous savez que Dieu, il entend à l'intérieur ? Bon. Prie en lui-même, « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères. » En plus, il regardait un copain à côté. « Ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » C'est bien ce qu'il fait ? Il va à l'église, il prie. Il prie dans son cœur. Bon, il prie, il fait des choses extraordinaires. Il jeûne deux fois par semaine. Quelle piété, voyez ? Il donne la dîme. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que nous jeûnions, que nous prions, que nous donnions notre dîme, que nous allions au temple pour prier ? Bon, verset 13. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison, justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Nous allons lire notre texte pour indiquer pareillement dans l'Ancien Testament, dans le prophète Amos. Gardez cette page s'il vous plaît. Dans le prophète Amos, c'est le même principe, le peuple de Dieu célèbre les fêtes que Dieu avait instituées, ils chantent, ils offrent des sacrifices, ils font des assemblées,
etc. Ils offrent des agneaux et des taureaux et des tourterelles et des pigeons pour ceux qui sont les plus pauvres. Enfin, c'est bien. Ils chantent. Est-ce que c'est bien de chanter? Qui c'est qui a institué les cantiques dans l'Église? C'est Dieu.
C'est écrit dans la Bible, entretenez-vous par des cantiques. Regardez, Amos chapitre 5, 21. Ça va loin cette affaire. Je ne sais pas ce qu'ils ont dû penser quand Amos a fait cette prédication. Je méprise vos fêtes. Ils ne devaient pas être contents, je vous le dis. Je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Mais regardez ce que Dieu veut. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice, retenez bien ce mot une fois de plus, et la justice comme un torrent qui ne tarit jamais. Vous avez vu dans les deux textes, c'est exactement le même principe. Il y a un homme qui monte au temple pour prier. Vous avez vu ce que Jésus dit quand il donne l'explication? En se persuadant qu'elles étaient justes. Il se persuadait qu'il était juste parce qu'il faisait des choses que Dieu demande. Mais il ne faisait pas aucun cas des autres. Et là, c'est pareil, dans l'Ancien Testament, ils font les fêtes religieuses, les assemblées, les holocaustes, les actions de grâce, les cantiques, ce sont toutes des choses que Dieu demande. Mais ils ne pratiquent pas la justice. On le voit au verset 15, d'ailleurs, voyez. Au verset 15, il dit « Mais haïssez le mal, aimez le bien ». Faites régner à la porte la justice. Un troisième texte, dans 1 Corinthiens 13. Vous connaissez ce texte, 1 Corinthiens 13? Qui ne connaît pas 1 Corinthiens 13? Qui n'a jamais entendu 1 Corinthiens 13? C'est un des textes les plus connus. Même les païens les utilisent dans certaines fêtes pour exprimer la beauté de l'amour. Ils ne comprennent pas le sens spirituel, mais quand même, c'est même un texte que les païens utilisent. L'apôtre Paul indique dans le chapitre 12, dans le chapitre 14, combien il est important d'être rempli du Saint-Esprit. C'est très important de rechercher à être rempli du Saint-Esprit. Car si on n'est pas rempli du Saint-Esprit, ce qu'on va faire, on va le faire avec ses propres forces. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on le fait avec la grâce de Dieu. Alléluia. Donc l'apôtre Paul explique tout un tas de choses que Dieu demande tout le long des évangiles. Et même dans les épîtres, on commence. 1 Corinthiens 13. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Verset 2. « Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Vous vous rendez compte? Le parler en langue. Est-ce que c'est bien de parler en langue? Est-ce que la Bible nous enseigne que quand on parle en langue... Regardez un peu le verset 14 du chapitre 14. Ou même le verset 4 d'abord. « Celui qui parle en langue, qu'est-ce qu'il fait? Il s'édifie lui-même. » Verset 14. « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière. » Est-ce que ce n'est pas utile? Est-ce que ce n'est pas utile de parler en langue? C'est quelque chose d'extraordinaire. Vous priez en langue, que ce soit dans l'intimité d'une réunion de prière, que ce soit à la maison, l'Esprit de Dieu intercède au travers de vous pour des situations. Peut-être que vous allez prier pour... Vous allez, pas peut-être, vous allez certainement prier pour des situations que vous ne connaissez pas. Mais voilà, vous vous rendez disponible. Ce sont des choses qui nous dépassent un petit peu, j'avoue encore, même après des années de conversion. Mais la Bible dit que quand on prie en langue, notre esprit est en prière. Peut-être que vous priez pour quelqu'un, un chrétien qui est emprisonné là-bas, je ne sais pas moi, dans tel pays. Voilà, l'Esprit de Dieu intercède au travers de nous par des soupirs inexprimables. Heureusement que le Seigneur a plusieurs moyens de faire mouvoir son bras. Et pourtant, si je n'ai pas l'amour... Quand j'aurai le don de prophétie, verset 2, est-ce que ce n'est pas extraordinaire le don de prophétie? Vous vous rendez compte? Un pécheur qui rentre dans une église, un homme apporte un don spirituel, un don de prophétie. Regardez quand il est dit au chapitre 14, quand il est parlé des dons de prophétie, regardez, verset 24, 1 Corinthiens 14:24. Mais si tous prophétisent, qu'il entre un non-croyant, un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire le pécheur? Il adorera Dieu, et qu'est-ce qu'il va faire? Il publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Dites-moi, est-ce que c'est bien le don de prophétie? Et pourtant, c'est extraordinaire qu'un païen soit touché par une prophétie, que ce soit lui. C'est même plus nous qui aurons à lui dire, tu sais, Dieu est au milieu de nous, il a dit. C'est lui qui le dira. On l'a vu, hein? C'est pas beau ça. Le don de prophétie, le parler en langue, la science de tous les mystères. Est-ce que c'est pas extraordinaire quand des chrétiens sont saisis par l'Esprit de Dieu et qu'ils comprennent les vérités spirituelles, qu'ils sont saisis par les mystères de la parole de Dieu? C'est pas extraordinaire? Que la connaissance de Dieu augmente, que ça nous permette d'enseigner, d'édifier et de révéler aux hommes ces mystères, c'est-à-dire ces choses cachées que Dieu peut nous dévoiler. C'est extraordinaire. Et pourtant, la connaissance, quand j'aurai toute la connaissance, bon là, c'est quand même, on n'a jamais vu quelqu'un qui a toute la connaissance, quand j'aurai toute la connaissance, la foi jusqu'à transporter des montagnes, que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que ce n'est pas ce à quoi Dieu nous appelle, d'avoir une foi vivante qui déplace les problèmes? Déplacer les montagnes, c'est, ne vous inquiétez pas, ça n'a rien à voir avec la topographie. Ça a à voir avec les gros, gros, gros problèmes que nous rencontrons. Parce que si chacun commençait à déplacer les montagnes, je pense qu'il y aurait des problèmes avec les paysans qui ont la foi, je vous le dis. Mais mes frères, mes sœurs, c'est pas extraordinaire d'avoir une foi qui augmente? Dimanche, j'ai prêché sur un homme qui s'est attribué le psaume 23, l'Éternel est son berger, il sait qu'il ne manquera de rien, il a confiance en Dieu, il est à l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant, il fait confiance, quoi que ce soit qui se passe. C'est pas extraordinaire d'avoir la foi? On pourrait faire des études innombrables sur la beauté d'une foi qui est vivante. Je partageais dernièrement ce verset dans Hébreux 11, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. C'est extraordinaire. Dieu aurait pu dire, non, qu'est-ce qu'il écrit, auteur? C'est par la puissance de Dieu. Non, parce que par la foi, les montagnes s'écroulent. Et pourtant, si j'avais la foi pour transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, ça ne me sert à rien. En plus, c'est intégré, ce chapitre 13, autour de tout un enseignement sur la beauté de ce que je suis en train de vous expliquer, que ces choses-là, elles sont nécessaires. Distribuer les biens, verset 3, quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire quand un chrétien, il est là et qui donne ce qu'il a reçu? Dans Ésaïe 58, partage ton pain avec celui qui a faim. Est-ce que c'est bien de donner? Quand on envoie des milliers d'euros pour nourrir des villages en entier au Niger, est-ce que c'est bien? Ben oui, et Dieu le voit. Et tout ça, c'est enregistré. Ça va loin, cette affaire, puisque Jésus dit que même un verre d'eau qui a été donné à quelqu'un, parce qu'on l'a fait pour le Seigneur Jésus, ben la personne, clac, c'est écrit. Vous l'avez oublié, vous? Tant mieux, d'ailleurs. Tant mieux que vous ayez oublié. Mais Dieu ne l'a pas oublié. Dieu dit que vous en aurez une récompense. Et pourtant, toutes ces choses qui sont extraordinaires, que je viens de citer, que je n'ai pas pris le temps de développer, juste un petit peu, pour que nous comprenions que ça fait partie quand même de la vie de l'Église. Une Église, elle a à cœur les dons spirituels. L'Église de la fin des temps, elle doit baigner dans les prophéties. Dans les derniers jours, dit Jésus, je répandrai de mon esprit sur toute chair. L'Église de la fin des temps, elle doit entrer dans la vision prophétique. Une Église qui refuserait les dons spirituels, c'est une Église qui va passer à côté quand même de la grande bonté de Dieu. Oh, l'Église primitive a commencé avec la pluie de la première saison, avec ce torrent de bénédiction de la Pentecôte, mais il y a la pluie de l'arrière-saison, la pluie que Dieu envoie et qui va envoyer, j'espère, là au niveau géographique sur notre pays pour que le blé pousse une bonne fois pour toutes. Mais spirituellement, le monde a besoin de la pluie de l'arrière-saison. Et Jésus dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit, mes fils et mes filles prophétiseront, les jeunes et les vieux et les vieillards, enfin il y en a pour tout le monde. Dieu veut bénir tout le monde. Dieu montre ces choses qui nous permettent d'être des chrétiens équilibrés en ce qui concerne les dons spirituels, la foi, la connaissance, le travail social. Et pourtant, toutes ces choses-là peuvent être faites sans amour. Et Dieu nous met en garde.
voyez ce gars qui va au temple et il va prier, il jeûne, il prie, il donne sa dîme, il est là. C'est tout ce qu'un pasteur veut, qu'un chrétien il soit comme ça. Et pourtant, il ne fait aucun cas des autres. Et s'il y a bien une chose qui plaît à Dieu, on vient de lire 1 Corinthiens 13, on vient de lire Amos 5, on vient de lire Luc 18, on vient de comprendre au travers de ces trois textes, et il n'y a pas que ces trois textes, que nous devons faire attention de ne pas faire les choses pour les faire. Il faut les faire avec joie. Si je n'ai pas l'amour, ça sert à rien. Et je dois m'interroger ce soir, nous devons nous interroger, car c'est le but, de ressortir meilleur. Les Corinthiens, Paul devra leur dire, ce qu'il y a de grave dans votre église, c'est que vous vous assemblez, non pas pour devenir meilleur, mais pour devenir, bien, j'espère que ce n'est pas le cas, j'espère que nous, nous nous assemblons pour devenir meilleur. Seigneur, c'est vrai, je fais les choses parce qu'on m'a dit qu'il fallait les faire et je les fais. Mais que je ne tombe pas dans le piège de la religiosité ou dans le piège de la tradition, que je fasse les choses de bon cœur. D'ailleurs, Paul, pour comprendre, dira aux Colossiens, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Ça fait qu'il faut apporter les dons spirituels, il faut découvrir la connaissance du Seigneur, car plus un homme connaît Dieu, on l'a partagé déjà ça, plus un homme connaît Dieu, plus il a des convictions, plus il a de l'assurance, plus il est fort, plus il est prêt, etc., etc. Mais que nous n'oublions pas d'aimer les autres et de vraiment les aimer, de les aimer comme ils sont. Ils changent, c'est bien. Vous avez vu dans la parabole, il y en a des choses à dire. Le pharisien, qui était bien sûr très religieux, lui, il se compare à celui qui n'est pas beaucoup. Il dit, tu vois, moi, je ne suis pas comme lui. Moi, je suis bien. Est-ce que ça vous arrive de vous comparer aux autres? Allez, on baisse les yeux tous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous comparer? Oui. Ben oui. Soyez honnêtes. Eh bien, il ne faut pas. Si, la seule chose qu'il faut faire, c'est que chacun, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère celui de... C'est, en effet, on est pétri de chair. Et la chair, la mauvaise nouvelle, c'est qu'elle nous accompagnera jusqu'à la fin. C'est écrit que la vieille nature, ben, on l'aura jusqu'à la fin. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit aussi sera avec nous jusqu'à la fin. Quand on va lire la suite, on va comprendre ce qu'est vraiment l'amour. Car je crois qu'on a besoin de... On a besoin d'aimer davantage. On est dans un monde de haine. Vous avez vu tout ce qui se passe, hein? Vous ne trouvez pas que la haine, elle est là? Est-ce que c'est écrit que dans les derniers jours, les gens seront pleins de haine? C'est écrit? Il n'est pas dit que... Qu'est-ce qu'il y avait du temps de Noé? La méchanceté, elle était sur toute la terre. La terre était pleine de méchanceté. Et Jésus a dit, il en sera de même. Donc ne nous attendons pas à ce que les choses changent. Quand vous écoutez nos chers leaders politiques qui vont tout changer, moi je vous dis, ils doivent un petit peu se tromper. La Bible dit que les hommes seront de plus en plus mauvais. Parce qu'ils ne veulent pas de la grâce de Dieu. Quand on rejette Jésus, il ne faut pas s'attendre à ce que la paix vienne sur la terre. Et on peut lire encore, gardez 1 Corinthiens 13 s'il vous plaît. On peut lire dans certains textes dans l'évangile de Jean, vous savez que Jean a été appelé l'apôtre de l'amour, on sait pourquoi. Il le dit qu'il y a des choses, il y a des choses qui plaisent à Dieu. Par exemple, dans Jean chapitre 15, il parle de l'amour comme d'un commandement. Nous parlons de l'amour souvent comme des émotions, comme des sentiments. Voilà, lui je l'aime parce qu'il est sympa, lui je l'aime pas parce que sa tête ne me revient pas. Mais ça c'est pas dans la Bible ça. Ça, c'est le monde avec ses émotions et ses sentiments. Et un chrétien, il ne laisse pas dominer par ses émotions et ses sentiments. Un chrétien, il se laisse dominer par la vérité. Et le Seigneur Jésus dit, Jean chapitre 15, « Si vous gardez mes commandements, verset 10, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Ah, c'est vrai que la barre, elle est quand même haute. Mais si le Seigneur le demande, est-ce qu'on peut y arriver? Est-ce qu'on peut faire des progrès? Il n'y a pas des gens avant qui vous irritaient et qui ne vous irritent plus parce que vous avez appris à les aimer tels qu'ils étaient? Ne me dites pas qu'il n'y a personne qui vous a irrité. Il n'y a pas des gens, des fois, qui vous ont... Allez, aidez-moi. Non, ce n'est pas arrivé? Mais le temps a passé. Vous les avez bénis. Seigneur, je te prie pour cette personne. Je n'ai pas d'affinité avec elle, mais je te prie de la bénir. Vous avez la preuve là que vous l'aimez. Parce que quand on prie pour quelqu'un, on commence à le bénir. C'est pas ça, bénir quelqu'un ? Prier pour lui ? On continue. Verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie, c'est-à-dire d'utiliser sa vie. Comment utilisons-nous notre vie ? Aujourd'hui, qu'avez-vous fait ? Peut-être que vous aviez besoin de repos, et c'est très bien, et vous vous êtes reposé. Mais vous n'allez pas vous reposer tout le temps. Il y a peut-être un moment où après vous êtes reposé, vous dites « Ah, mais qu'est-ce que je fais de ma vie ? Comment je l'utilise, ma vie ?» Jésus dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que d'utiliser sa vie pour ses amis, de faire du bien. La Bible le dit, ne vous lassez pas de faire le bien. Des fois, on entend des chrétiens, « Oh, je me suis fait avoir, j'ai aidé telle personne, j'ai aidé celle-ci, c'est fini, je rends le talpier, je ne fais plus rien. » Je crois que, et le Seigneur, lui, ne s'est pas fait avoir. Il n'a pas dit, à un moment donné, « Tous m'ont abandonné. » Il aurait pu dire, « Bon, c'est ça. C'est ça, les pasteurs que j'ai formés. Ils m'ont tous abandonné, eh bien, je ne vais pas à la croix. » Seigneur, il a dit, « Tous m'ont abandonné. » Et la première parole qu'il prononce quand il est crucifié, ses pères, pardonne-leur. Moi, je trouve qu'il nous en a fait du bien, le Seigneur. Quand il a prononcé cette parole sur le bois de la croix, je crois qu'il nous en a fait du bien. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Et c'est vrai qu'on peut faire les choses. Et il faut les faire, en plus. On ne peut pas dire, ah bon, mais j'ai compris. Je ne prie plus, je jeûne plus, je ne vais plus au temple, je ne loue plus, je ne donne plus ma dîme, j'ai compris. Non, ce n'est pas ça. La Bible dit d'ailleurs dans Luc, il le dit, ces choses-là, il fallait les faire. C'est où qu'il dit ça ? C'est dans Matthieu 23, je crois. Quand il dit toutes ces choses-là, il revient sur ce sujet, il parle au pasteur qui mettait un joug sur les gens. Et justement, on peut mettre un joug sur les gens en leur faisant faire des choses pour les faire. Est-ce que vous me comprenez ? On peut dire, il faut faire ci, il faut faire ça, comme ce pasteur qui a mis l'église dans une chaîne de prière. Il dit, voilà, il faut mettre l'église en prière 24 heures sur 24. Alors, qui c'est qui va prier ? Alexandre, vous allez prier de 6 à 7. Edwige, vous allez prier de 7 à 8. Monsieur de Dieu Olivier, de 8 à 9. Monsieur Olivier Norbert de Dieu, de 9 à 10. Jérémy, de 10 à 11. Josué, je vais arrêter quand même. Josué, de 11 à 12, etc., etc. Et puis après, il s'assure qu'il s'est tombé sur 2 heures à 3 heures du matin. Et ils l'ont fait. Et au bout de 3 semaines, plus personne ne voulait prier parce que c'était devenu un joug. Il n'y a pas écrit dans la Bible, faites des chaînes de prière. Il y a écrit dans la Bible, ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, écoutez, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il prie. Voilà, il aime prier. Il ressent le besoin de prier, il a envie de prier, parce qu'il a envie d'être avec le Maître, il a envie de se retrouver avec le Sauveur. Et tous ces trois textes, si on prend le temps de les méditer, nous montrent qu'il faut faire très attention. Ce sont des choses que Dieu a instituées, ce sont des choses merveilleuses qui font grandir l'œuvre de Dieu, mais si c'est vécu et si c'est fait pour être fait, je suis catégorique parce que Dieu est catégorique, ça ne sert à rien. Et c'est vrai qu'il faut les faire. Regardez dans Matthieu 23. Il parle à 7 reprises, il parle aux pasteurs de l'époque, il leur dit ce qu'il faut leur dire. Mais il n'y a pas qu'à l'époque. Matthieu 23, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'anès et du cumin. Vous voyez, alors là ils étaient, vous savez ces herbes aromatiques qu'il y a dans le jardin. On a tous dans nos jardins un peu de persil, un peu de ciboulette, non ? Vous n'avez pas dans vos jardins un peu, bon. Vous voyez, alors vous rendez compte Les voisins, quand ils venaient et qu'ils voyaient le pasteur qui prenait la dîme de son persil, qui avait le mètre, 10 centimètres. Et voilà, la dîme du cumin, la menthe, le fenouil, etc. Que j'oublie pas le thym surtout. Et clac. Alors, et les voisins, ils devaient dire, oh, c'est pasteur. C'est pas possible. T'as vu, il a donné la dîme de la ciboulette. C'est volontaire que je vous fais un peu rire. Ça paraissait spirituel. Regardez ce qu'il ajoute. De l'anès, du cumin, et vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice. Ce n'est pas la justification.
c'est la justice, la miséricorde et la fidélité. Déjà, des fois, les gens disent, mais c'est quoi le plus important? Eh bien, vous l'avez là. La justice, la miséricorde, la fidélité. Alors, regardez ce qu'il ajoute. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. Il fallait le faire, ça, la dîme, tout ça, des petites choses, sans négliger les autres choses. Alors, c'est bien parce que Dieu nous met à cœur certaines choses. Nous avons à cœur certaines choses. Et il faut le faire parce que ce qu'on a à cœur, c'est souvent la volonté de Dieu quand même. Parce que Dieu utilise notre cœur. On a à cœur de visiter telle personne. On a appris que telle personne était là-bas, dans tel hôpital. Ah, mais on a à cœur d'aller la voir. Ça correspond à des choses qui sont là, que Dieu met dans notre désir. Mais voyez, il y a une chose qui est importante, c'est la justice. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Il faut aspirer les dons spirituels. Vous voyez, ça paraît, cette prédication, il faut qu'elle soit sérieuse et équilibrée. Les dons spirituels, quelqu'un pourrait dire, ah bon, alors les dons spirituels, c'est pas grave. On revient à 1 Corinthiens 14. Regardez avec moi. 1 Corinthiens 14, donc, vous voyez, c'est ça l'équilibre. Mais la chose la plus importante, c'est l'amour. Voilà. Notre sœur Madame Boulanger nous l'avait chanté à la réunion la dernière fois. 1 Corinthiens chapitre 14, lorsqu'il parle des dons spirituels, au verset 37, il explique ce que sont les dons spirituels. Et même il va plus loin, vous voyez. Quelqu'un pourrait dire, ah ben moi c'est les dons spirituels, c'est pas important. Non, regardez ce qu'il dit. Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris, c'est quoi? C'est un commandement du Seigneur. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont spirituels ici? Si quelqu'un est spirituel, si quelqu'un a accepté Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur, il sait que d'aspirer au don spirituel, c'est un commandement du Seigneur. Voyez? Et c'est ça dans la Bible, c'est cette recherche de l'équilibre. Oui, on doit continuer à s'occuper des pauvres. Oui, on doit continuer à faire du bien aux Nigériens qui sont dans la mission, etc., etc. Oui, on doit continuer à connaître davantage la parole de Dieu pour comprendre les choses de Dieu. Oui, on doit s'appliquer à ceci, à cela. Mais surtout, Seigneur, donne-moi cette intelligence d'aimer mon prochain, de faire les choses par amour. Quand je prie, c'est par amour. Quand je jeûne, c'est par amour. Quand je donne ma dîme, c'est par amour. C'est pas pour me mettre Dieu de mon côté et me dire, voilà, je fais ça, eh bien, je suis pas comme les autres. Mais tant mieux si on fait certaines choses que les autres ne font pas. Tant mieux si Dieu nous a révélé certaines choses que les autres n'ont pas encore comprises. Mais franchement, mes frères et sœurs, le Seigneur, il est catégorique. S'il n'y a pas l'amour, ça sert à rien. Dans sa dernière prière, vous savez, la prière sacerdotale, le Jean 17, Jésus dit, c'est comme ça que le monde saura que vous êtes chrétien. Que le monde saura que vous êtes chrétien. À l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et c'est un commandement. On doit rechercher les dons spirituels, mais on doit rechercher l'amour. On va revenir, on va terminer avec 1 Corinthiens 13, mais on va lire ce qu'est vraiment l'amour. On termine avec, on a lu ce que le Seigneur nous enseigne, et si on ne l'a pas, ça ne sert à rien. Mais, au verset 4, verset 5, verset 6, j'ai décidé cet après-midi d'apprendre ces trois versets par cœur. Et de les méditer lorsque je suis dans ma voiture. L'amour est patient. 1 Corinthiens 13, verset 4. Est-ce que vous êtes satisfait de votre patience? Est-ce que vous avez fait des progrès depuis votre conversion sur la patience? Ben oui, vous en avez fait. Ça serait grave si ça soit l'inverse. Mais Dieu peut nous donner des épreuves pour apprendre la patience. Considérez les diverses épreuves auxquelles vous êtes confrontés. Afin que l'épreuve de votre foi produise la patience. Est-ce que vous avez envie d'être plus patient? Eh oui, quand on est patient, c'est une grande vertu, la patience. L'amour est patient. Demandons la patience au Seigneur. Je crois qu'il nous l'accordera. Dans les bouchons, c'est une très bonne école, la patience. Il est plein de bonté. Voilà, on fait ce qui est bon. Dernièrement, j'étais avec des gens avec qui on venait de leur parler du Seigneur. Et on devait se séparer, on avait passé 2 ou 3 jours ensemble, c'était des païens, et je leur ai dit, bien, nous avons eu de la chance, nous avons rencontré des gens bien. Ah, mais les gens, non, on n'est pas des gens bien. Et c'est quoi pour vous les gens bien? Eh bien, c'est des gens qui ont réussi dans la vie. Non, j'ai dit, les gens bien, ce sont des gens qui font du bien.
n'est pas parce qu'on a réussi socialement, qu'on gagne 5000 euros par mois, qu'on est bien. Dans le monde, c'est ça, être bien, c'est quelqu'un qui a réussi socialement, professionnellement. Dans le royaume de Dieu, quelqu'un de bien, eh bien c'est logique, c'est quelqu'un qui fait du bien.
L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. En lisant ce texte tout à l'heure, je me suis rappelé au début de ma conversion, même plus tard, dans le ministère j'étais, j'ai envié quelqu'un. Je crois que c'est la seule personne que j'ai enviée en 30 ans de conversion. Et je ne sais pas ce qui m'avait pris, ça avait été une espèce de lutte, de combat. J'enviais quelqu'un. C'est drôle parfois comment on peut se faire piéger, vous voyez ? N'enviez pas quelqu'un, soyez vous-même, contentez-vous de ce que vous avez. Bénissez Dieu, s'il vous donne plus, merci Seigneur. Mais ne soyez pas envieux. Aimez les gens comme ils sont, ils ont réussi, c'est bien. Mais ne soyons pas envieux. Moi je me suis fait piéger, quand j'y repense, je me dis mais c'est pas possible, pourtant j'avais la paix et tout, mais je me suis fait piéger. J'ai du mal à comprendre comment, pourquoi certains pièges sont fins. Hein. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt. Ça, c'est quelque chose. Là, on reconnaît quelqu'un qui aime. Il y a des gens, ils ne pensent qu'à eux, et des chrétiens. Alors, les gens du monde, c'est normal. Ils sont dans les ténèbres, ça se conjugue. Quoi qu'il y ait des gens dans le monde qui cherchent l'intérêt des autres. Mais si vous faites partie de cette catégorie de personnes qui ne pensaient qu'à vous, demandez à Dieu une délivrance. Demandez à Dieu qu'il vous aide à ne pas chercher votre intérêt, mais à chercher à faire du bien aux autres. Je m'adresse aux jeunes, je m'adresse aux ados, aux jeunes qui sont encore chez vos parents. Si vous êtes chez vos parents encore, pensez à faire du bien. Écoutez-moi, pensez à faire du bien. Il y a des gens, ils ne pensent qu'à eux. Et l'amour, je suis désolé, il ne cherche pas son intérêt. Quand on aime, on a envie de faire du bien aux autres. Tiens, qu'est-ce qui sait qui lui ferait plaisir ? Ma mère a reconnu que je m'étais converti parce que le lendemain de ma conversion, je lui ai dit « Maman, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Et elle m'a dit « Détruis, je les ai faits. » Elle m'a dit « Ça ferait plaisir à ton père que tu passes le motoculteur dans le champ. » Et il a un grand champ. Eh bien, je l'ai fait. Mais je dis ça parce que bon, c'est ma première expérience que j'ai faite dans ma famille. Je crois que quand on aime, on a envie de faire plaisir à ses parents, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs. Bien sûr, dans la limite du possible. Il y a des gens qui disent, ouais, j'aimerais faire ça, je ne le fais pas. C'est Paul qui dit aux Corinthiens que la bonne volonté, elle est agréable en raison de ce qu'elle a à sa disposition. C'est sûr, si vous disiez, ah, moi, si j'avais 50 millions, je donnerais 50 000 francs à telle association. Oui, mais vous ne les avez pas. 2 Corinthiens 8, verset 12. C'est un verset qui nous permet de comprendre qu'on peut faire quelque chose avec ce qu'on a. Et non pas avec ce qu'on n'a pas. Parce que c'est facile de dire, si j'avais, ah, si j'étais riche. Hein. 2 Corinthiens 8, verset 12. La bonne volonté, donc à Dieu, hein, et quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Vous comprenez ? Dieu ne vous demandera jamais de faire des choses avec des moyens que vous ne possédez pas. Mais vous avez peut-être des petits talents cachés. Vous faire visiter une personne âgée, c'est quelque chose qui est à votre disposition. Vous voyez ? Etc. Je termine, mes frères et sœurs, recherchons l'amour. On termine, on lit, on finit avec la fin du verset 1 Corinthiens 13. On termine avec, en lisant combien je nous encourage, peut-être même à apprendre par cœur ces trois versets. Verset 5, donc, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout, ça nécessiterait beaucoup d'explications. Nous continuons, l'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi,
l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Recherchez l'amour. Amen. Trois choses, la foi, l'espérance et l'amour. Quelqu'un a dit, la foi, ça nous permet de bien vivre le présent. L'espérance, ça nous permet de bien vivre l'avenir. Et l'amour, ça nous permet de bien, tout bien vivre. Et c'est vrai. Je crois que la foi, l'espérance et l'amour sont des vertus qui doivent être recherchées. On ferme les yeux, mes frères et sœurs, hein, et on répond au Seigneur. Parce que croyez-moi, Jésus a dit, vous êtes heureux, si vous savez ces choses. Mais il ajoute, pourvu que vous les pratiquiez, c'est dans le contexte où il a lavé les pieds aux apôtres, il a mis le comble à son amour. Peut-être que quelqu'un vous a abandonné, peut-être que les choses ont mal tourné. Quand ça allait être le cas pour Jésus, il n'a pas boudé, il nous a dit qu'il les a réunis et qu'il a mis le comble à son amour. Mes frères et sœurs, c'est notre modèle. Continuons à aimer les gens que nous côtoyons, les gens avec qui nous travaillons, les gens de notre famille, de notre voisinage. Nous choisissons de les aimer et ça va plaire au Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, nous te bénissons de nous avoir laissé ta parole et de nous avoir enseigné sur cette véritable vie, cette vie que tu donnes aux hommes qui aiment ta parole. Nous l'avons chanté et nous le croyons et nous ne voulons pas ressembler à ces pharisiens, à ces pasteurs de l'époque, de ton époque, à que tu as blâmé, à ces croyants de l'Ancien Testament qui faisaient toutes ces choses sans chercher le royaume de Dieu et sa justice. Seigneur, aide-nous. Ce soir, nous réclamons ton aide. Nous croyons que si tu nous entreprends sur ce sujet, c'est que tu veux nous aider à aimer davantage. C'est que tu veux nous aider à être de véritables chrétiens pieux, remplis d'amour, remplis de compassion, de miséricorde et de fidélité. Seigneur, merci. Donne-nous de méditer ta parole afin que nous ne nous laissions pas piéger par la religiosité, la tradition et la routine, mais que nous nous laissions attirer par ton amour qui nous pressera comme l'apôtre Paul a été pressé pour faire tant de bien aux croyants à qui il a pu écrire ta parole. Seigneur, aide-nous, aide-moi afin d'être ces hommes et ces femmes qui permettront aux gens de l'extérieur de reconnaître que tu es réellement au milieu de nous. Que ton nom soit béni. Merci Jésus. Amen.